France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Jeune leader paysan breton du début des années 60, il devait ensuite fonder et présider la société Brittany Ferries. Le combat des paysans militant à la fois pour la modernisation de l'agriculture et contre la désertification, Alexis Gourvennec le racontait au micro d'Emmanuel Laurentin, le 7 mars 2005, dans La Nouvelle Fabrique de l'Histoire. C'est cette émission que vous allez entendre. Mais avant cela, notez que La Fabrique de l'Histoire est désormais une collection éditoriale dont le premier volume, La France et ses paysans d'Emmanuel Laurentin, vient de paraître dans une co-édition Bayard France Culture. De larges extraits de l'émission avec Alexis Gourvennec que vous allez entendre y figurent, mais aussi tant et tant de pépites, de moments historiques, forts, toujours ancrés dans la vie et les témoignages des paysans de toute la France.
1, 2, 3, 4, 1.
Mi sol, mi ré, do,
la ré.
2, 3, 4, 1.
Mi sol, mi ré, do.
La Nouvelle Fabrique
de l'Histoire.
Racontez.
Jugement d'apaisement ce soir à Morlaix. Les deux leaders syndicalistes bretons, Marcel Léon et Alexis Gourvennec, viennent d'être purement et simplement acquittés par le tribunal et relâchés. Leur affaire, vous vous en souvenez, ils avaient à la tête de manifestants le 8 juin dernier occupé la préfecture de Morlaix. Leur action considérable en ce que les deux leaders représentaient, concrétisaient, si vous voulez, les revendications et l'agitation paysanne des derniers jours.
Gourvennec et Léon s'approchent maintenant. Ils sont entourés de leur famille. Ils sont portés en triomphe. Gourvennec est porté en triomphe. Ils s'approchent des manifestants. Les barrages ne vont certainement pas tenir maintenant. Ce sont des hurlements de joie. Et maintenant, ils rentrent dans la foule, ils fondent la foule.
Mes chers amis, mes premiers mots seront des mots de remerciement pour vous tous qui avez bien voulu nous témoigner votre sympathie depuis le jour où nous avons été incarcérés à Pontagnoux, et à vous tous aussi, car vous êtes nombreux qui avez bien voulu nous remplacer dans nos exploitations pendant notre séjour là-bas. Je m'empresse de vous dire d'ailleurs que ce séjour à la maison d'arrêt de Pontagnoux a été pour nous vraiment bénéfique, car il nous a permis 15 jours de repos, tant pour le corps que pour l'esprit. Et nous en sortons tous les deux, Alexis et moi, plus regaillardis et plus en forme que jamais.
Alexis Gourvennec, bonjour. Alors voilà, cette archive datée de 1961, c'était le début d'un grand combat. En même temps, ça n'était pas vraiment le début, puisque vous aviez commencé la fin des années 50 à militer, Alexis Gourvennec. Et donc ce moment, c'était presque à la fois le début d'une véritable popularité en Bretagne, mais dans le reste de la France, on va en parler. Mais c'était aussi la conclusion d'un travail préliminaire, c'est cela ?
Oui, ça a été la conséquence et la conclusion, je dirais, de tout un travail de réflexion. Notre travail de réflexion que l'on avait essentiellement mené à la JAC et qui nous avait amené à constater tout d'abord que le milieu paysan avait tendance à vivre un peu en marge de la société, ou du moins était considéré comme en marge de la société. Il exerçait un métier compliqué et que beaucoup ne considéraient d'ailleurs pas comme un métier. Tant l'agriculture vivait en autarcie, chacun faisait les deux cochons dont il avait besoin pour sa consommation familiale, avait ses 3 vaches pour sa consommation et sa production de lait et de beurre, assurait sa production légumière. Bref, c'était un milieu qui vivait très replié sur lui-même et dont plusieurs, je dirais, dans le milieu rural, se satisfaisaient de cette situation. Nous étions incontestablement non pas des chefs d'entreprise, mais des femmes, des hommes, des familles qui vivions en quelque sorte en autarcie, en produisant la quasi-totalité de ce dont nous avions besoin.
Alors, c'était une autarcie, mais ça ne vous permettait pas de vivre bien, de toute façon. D'abord, parce que on sent tout de suite dans la façon dont vous évoquez cette période, je rappelle que vous êtes né en 1936, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, on sent, la trace d'une sorte de mépris social dont les agriculteurs, les paysans bretons faisaient les frais. On sent que vous n'étiez pas bien vu, peut-être, vous et les gens qui étaient issus de ce milieu paysan, y compris dans les petits villages où vous travaillez, où il y avait à la fois des artisans, des marins-pêcheurs, des goémoniers. Enfin, ça n'était pas une condition qui était véritablement très appréciée, la condition de paysan.
En tout cas, pour ceux qui la vivaient, c'était une condition insupportable. Ce que j'appellerais un état de vie et le milieu paysan, le métier de paysan n'était pas un véritable métier, c'était plutôt une façon de vivre, qui consistait à travailler beaucoup, pas de façon d'ailleurs toujours rationnelle, à se lever tôt le matin, à se lever tard le soir, et à être relativement déconsidéré, je dirais, par les populations locales. Il n'y a, je dirais, que sur les bancs d'école primaire, que l'on retrouvait véritablement notre place et notre capacité à donner à un environnement non agricole qui nous était plutôt favorable, des leçons d'intelligence et des leçons de savoir-faire.
Eh oui, parce que comment vous avez appréhendé justement cette sorte de mépris social vis-à-vis des paysans vous-même? Vous l'avez vécu comment dans un livre qui vient de paraître, qu'il faut lire parce que c'est un travail très long que vous avez fait avec Fanché Leguet, qui est donc enseignant de sociologie à l'université de Rennes 1, qui s'intitule « Alexis Gourvenec, entrepreneur collectif ». Vous rappelez que « sale paysan », c'était une insulte très régulière que vous avez pu connaître vous-même, Alexis Gourvenec.
C'était effectivement une insulte, je dirais, très courante. Un seul signe, nous y étions dans les écoles primaires, les derniers, disons, élèves à porter des sabots de bois. Quand le fils de l'artisan, du commerçant, du coin, du facteur portait, je dirais, des chaussures de cuir. Ceci n'est peut-être pas un signe évident, c'est un signe quand même parmi d'autres. Et il est certain que cette situation, je dirais, de un peu de laisser tout pour compte, de dédain qui nous était facilement jeté à la figure, y compris par ceux, je l'ai dit, qui en classe brillaient beaucoup moins que certains fils de paysans ou filles de paysans, nous ne pouvions pas le supporter éternellement.
Alors c'est très étrange parce que on a du mal à comprendre comment dans un milieu qui était un milieu rural, certes relativement proche de la mer, puisque vous êtes issu vous-même du Nord Finistère, Alexis Gourvenec, comment dans un milieu rural il pouvait y avoir de tels clivages, c'est-à-dire que qui étaient ceux qui considéraient les paysans comme des personnes qu'il ne fallait pas fréquenter. On a l'impression que dans ces milieux-là, il n'y avait pas, dans ces villages, il n'y avait pas, a priori, de très grandes fortunes. Alors, qui étaient ceux qui considéraient que le paysan n'était pas à fréquenter, qui n'était pas une bonne personne à avoir dans son entourage, Alexis Gourvenec?
En fait, les non-agricoles, c'était, je dirais, très habitués à un ordre qu'ils considéraient établi pour longtemps. Et les hiérarchies étaient, les droits à la promotion étaient d'emblée fixés d'avance. Donc c'était effectivement l'environnement humain, c'était ceux qui pensaient que, je dirais, dans la société, les bons postes étaient surtout prévus pour les enfants de non-agriculteurs. Les agriculteurs eux-mêmes étaient, je dirais, dans une certaine mesure, ont été entraînés dans l'erreur en matière d'analyse parce que nos propres organisations professionnelles agricoles, l'Église, se sont totalement trompées sur l'évolution du milieu paysan.
Expliquez-nous, parce que par exemple, vous rappelez que une sorte de devise, même si elle est un peu résumée, c'était « crois en Dieu, baisse la tête, obéis et tais-toi », dans ces milieux de paysans bretons. C'était vraiment le cas? Vous vous souvenez effectivement qu'il y avait une sorte de soumission acceptée de la part de ces milieux paysans dans votre prime jeunesse, Alexis Gourvenec?
Il y avait certainement beaucoup de ça. Et à partir du moment où les non-agricoles ne considéraient pas l'activité agricole comme une activité économique normale, ils ne pouvaient pas concevoir à son instant que ce milieu agricole allait bouillonner à un moment donné, allait évoluer et allait conquérir, je dirais, ses places ou sa place dans la société. Mmh. Pour ma part, dans le cadre d'une petite école d'agriculture au centre Finistère qui s'appelait Nivotte, les frères de la Monnaie en économie m'appelaient que le métier d'agriculteur était un métier de chef d'entreprise qui consistait à mettre en œuvre et à articuler en permanence les facteurs de production que constituaient le capital, la terre et le travail. À partir du moment où il fallait admettre, où l'évidence était que le milieu paysan, que l'exploitation agricole était une entreprise, cette entreprise, elle était soumise aux lois de l'évolution de toutes les autres entreprises. Mmh. Je voudrais m'en expliquer.
Allez-y.
Il était déjà évident à l'époque que nous entrions dans une civilisation totalement nouvelle, où par exemple l'importance des besoins alimentaires dans une famille allait diminuer par rapport à l'importance des besoins globaux. On ne ressentait pas le besoin, jusqu'à il y a 60 ans, d'avoir une voiture. On ne ressentait pas le besoin d'avoir la télévision. Même les non-agricoles ressentaient à peine le besoin d'aller en vacances. Autrement dit, il y a eu là, en l'espace d'une période relativement courte, une explosion de nouveaux besoins qui n'existaient pas antérieurement.
Mais à cause de ce que vous racontiez aussi sur ce milieu rural qui était relativement enfermé sur lui-même, qui se contentait de son petit environnement, et aussi, il faut bien le reconnaître, par le fait que les transports n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, parce que on n'avait pas de voiture et que ce qui comptait, c'était le cheval et la journée de cheval.
Oui. Mais là, je parlais de l'opinion, en quelque sorte, et des besoins.
Absolument.
Des besoins des citadins, des besoins des consommateurs pris dans leur ensemble. L'important chez ces consommateurs des besoins alimentaires allait, par rapport à leur budget, diminuer au fur et à mesure que l'on rentrerait dans notre civilisation. Moyennant quoi, la conséquence fatale était que le nombre dans la population de ceux qui devaient travailler à la couverture des besoins alimentaires allait et devait diminuer, car naissaient des quantités d'autres besoins qui allaient mobiliser, je dirais, des quantités de force de travail pour couvrir ces autres besoins. Mmh. Or, église, organisation professionnelle, je suis catholique, hein, organisation professionnelle, ont fait croire aux paysans qu'on allait les sauver tous. Ce qui était une ineptie.
Alors ça, c'était un grand débat que nous allons pouvoir ouvrir avec vous tout de suite, Alexis Gourvenec. C'est vrai que la grande question, c'était entre deux visions de ce que devait être le monde rural. Un monde qui, petit à petit, allait se désertifier parce que on comprenait qu'il n'était pas possible de faire vivre tout le monde dans cette nouvelle disposition que vous venez de raconter, de faire vivre tout le monde du travail de la terre. Et puis, une autre école qui n'était pas la vôtre, Alexis Gourvenec, qui pensait qu'il fallait maintenir le maximum de gens à la terre, y compris dans des conditions économiques qui seraient moindres, plus difficiles. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce milieu dans lequel vous grandissez dans les années 45-50, Alexis Gourvenec? Il y a à ce moment-là, ce qu'on appelle le Landerneau, enfin, donc, en l'occurrence, cette école de Landerneau, cette vision de Landerneau, qui est une vision qui n'est pas exactement la vôtre, avec laquelle, d'ailleurs, vous serez à la fois en accord sur certains points et en désaccord sur d'autres plus tard, qui est une vision, justement, qui tend à vouloir maintenir le maximum de gens à la terre.
En effet, Landerneau, je dirais, était très marqué par le corporatisme.
C'était issu des années 30,
C'était issu des années 30, hein, et même un peu avant. Or, j'ai été au contraire toujours de ceux qui ont voulu que le milieu paysan s'intègre à l'ensemble de la société, s'intègre, je dirais, à l'ensemble des mécanismes économiques. de cette même société.
C'est-à-dire, vous combattiez ce qu'on avait appelé l'agrarisme, c'est-à-dire garder le maximum de gens à la terre, qui était incarné un peu par, par le comte de Guébriand, c'est ça ?
J'avais Alexandre Dachon avec le comte de Guébriand.
Qui, lui, était donc fondateur de cette COP de Landerneau.
Exactement, mais sur ce plan-là, nous étions en désaccord total. En désaccord total, car on savait qu'on était déjà en marche vers la mécanisation, en marche vers le progrès technique, en marche donc vers des gains de productivité importants. La conséquence inéluctable et fatale de cette marche avant, de ces gains de productivité, alors que le nombre, je dirais, de bouches à nourrir dans le pays n'augmentait pas, c'était la diminution du nombre d'agriculteurs. Il fallait pas se raconter l'histoire. J'ai passé pour ma part ma vie à essayer de regarder les problèmes avec objectivité. On ne trouve de solution aux problèmes que si on accepte de les analyser avec, je dirais, une objectivité absolument fantastique.
Alors, rentrons dans ce problème du maintien à la terre et aussi de la naissance de votre propre vocation de militant, d'entrepreneur collectif, comme le dit en sous-titre du livre qu'il a écrit avec vous, Fanchet Le Goët, donc aux éditions Apogée. Rentrons dans cette forge, cette fabrication de la personnalité d'Alexis Gourvennec. Vous êtes issu donc d'une petite famille de paysans, comme vous le dites, c'est la polyvalence des exploitations. C'est quatre vaches, deux taureaux à l'engrais quelquefois, remontant en cela, on le verra mercredi lorsque nous discuterons avec Jean-Marc Morisseau, historien de l'élevage, à quelque chose de bien plus lointain, qui était donc ces baux qui étaient passés entre des propriétaires qui louaient leurs vaches ou leurs taureaux pour qu'ils soient engraissés dans des fermes. Et puis vous dites deux chevaux, deux cochons, donc un tout petit nombre d'animaux, une petite surface aussi, je crois c'est 8 hectares pour votre
exactement, oui.
Votre famille d'origine, donc une toute petite surface. Votre père vient d'abattre les talus, chose... très importante que les urbains ne mesurent pas. C'était quoi cette histoire des talus ? Qu'est-ce que faisaient ces talus et qu'est-ce qu'ils empêchaient dans la modernisation du milieu rural en Bretagne ?
D'une part, ça entraînait un parcellaire. Les talus faisaient souvent 1,50 m ou 2 m de haut. Ça constituait, il faut l'admettre, des abris. Ça faisait peut-être beau dans la nature pour des citadins qui n'ont jamais labouré avec une paire de chevaux sur des surfaces, des parcelles qui ne faisaient que 2000 ou 2500 mètres carrés. C'est trop facile de dire qu'il fallait garder tout ça. C'est trop facile de dire qu'il ne fallait pas. Ces talus étaient un obstacle, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, à la mécanisation.
Et ces talus, qui évidemment avaient en contrepartie ces chemins creux entre les champs, généralement assez mal entretenus. Je me souviens personnellement de m'être rendu dans le Finistère, du côté de Plozévet, pour discuter avec les agriculteurs de cette région de l'évolution de ce milieu dans les années 50 et 60 et les agriculteurs qui disent en l'occurrence il y a trop de gens qui regrettent le passé qu'ils n'ont pas vécu, c'est-à-dire qui rêvent aujourd'hui sur ce paysage rural des années 40 et 50, juste avant que votre père n'abatte ses talus, parce que le travail était extrêmement dur, disent-ils à ce moment-là.
Oui, mais il faut dire d'abord que les rêves n'ont jamais nourri personne.
Ça c'est votre grand leitmotiv, Alexis Gourvennec.
Dans le même temps, les consommateurs, compte tenu de l'évolution de leurs besoins, voulaient et nous demandaient des gains de productivité pour mettre à leur disposition des denrées alimentaires de bien en bien meilleure qualité, d'une part, et à des prix de plus en plus compétitifs.
Oui, c'était une sorte de bataille de la production. On a parlé de bataille de la production pour le charbon après la Seconde Guerre mondiale, mais là, c'est une sorte de bataille de la production pour l'autosuffisance alimentaire, c'est ça ?
Et là, je dirais pari tenu. Je suis de ceux qui affirment que l'agriculture française a plus contribué à l'amélioration du niveau de vie de tous les Français que tous les syndicats de salariés réunis, CGT, FO, CFDT et compagnie.
Là, c'est le libéral qui parle. Allez-y, Alexis Gourvennec.
Non, je voudrais m'en expliquer. Si vous remontez à il y a 45-50 ans, chaque famille consacrait 36% de son revenu à la couverture de ses besoins alimentaires. Et l'on consacre aujourd'hui 14%. Donc nous avons fait un gain, nous avons transféré la productivité agricole au bénéfice des consommateurs pour 22% de leurs revenus. Sur les 14 que chaque famille consacre à la couverture de ses besoins alimentaires, il n'y en a que 4 qui reviennent à l'agriculture. Le reste, c'est la distribution, c'est de la valeur ajoutée, c'est du transport, c'est de la manutention. Donc, je dis mission accomplie, qui plus est, au-delà de la couverture, je dirais très large, des besoins alimentaires de la France, l'agriculture française est aujourd'hui devenue un élément important de richesse par l'exportation. Je dirais de denrées agricoles, nous sommes devenus importateurs nets, là nous étions exportateurs nets, là où nous étions au contraire en situation déficitaire il y a maintenant 45 ans.
Alors revenons à ces 45 ans, au début de ces 45 ans et au cœur de ces années 50 et 60, lorsque jeune, donc vous allez faire le lycée agricole privé, donc des Frères de l'Amené, du Nivote, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Alexis Gourvenec, que vous commencez à militer à la JAC, la Jeunesse Agricole Catholique, la JAC, et donc que vous commencez à prendre en charge cette question du collectif personnellement, alors que au départ vous auriez pu mener votre petit bonhomme de chemin tout seul dans votre coin, vous occuper de votre ferme. C'est la JAC qui vous a permis à la fois de mettre en ordre des idées peut-être qui étaient encore un peu confuses, de mettre en ordre une vision de ce milieu rural. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là lorsque vous avez commencé à militer à la JAC?
Certainement que la JAC y a beaucoup contribué. Tout d'abord, je suis de ceux qui pensent qu'un individu seul, quel que soit son niveau d'intelligence, est d'une efficacité, je dirais, tout à fait médiocre, pour ne pas dire nulle, par rapport à une équipe d'individus qui se mettent régulièrement autour d'une table pour analyser et réfléchir aux problèmes qui sont là.
Alors ça, c'était la grande théorie de tous les mouvements d'action catholique, l'analyse du problème, ensuite comment les résoudre en regardant tous les paramètres et bâtir un projet pour pouvoir aller plus loin. C'était le propre de ces mouvements d'action catholique, oui. Alexis Gourvenec.
En effet, c'était pas spécifique à la JAC, mais disons que sur le plan de la JAC, ça a été appliqué en tout cas avec ce que j'appellerais énormément de méthodes. Et le premier acte, je dirais, très volontaire que l'on a voulu faire, ça a été de donner à l'agriculture sa place dans la société. Donner à l'agriculture sa place dans la société, le pouvoir, avoir essayé de se créer une petite plage de pouvoir, sans en abuser, dans cette société qui, on le savait, allait évoluer au galop de charge. La première plage de pouvoir que les agriculteurs devaient construire, c'était un pouvoir économique. Ça veut dire, en clair, leur capacité, lorsqu'ils mettaient de la marchandise sur le marché, lorsqu'ils étaient en position de vendeur, de pouvoir imposer leurs règles de vendeur, alors qu'avant, les règles étaient établies unilatéralement par les acheteurs. Il fallait renverser cette situation.
Il fallait reprendre le pouvoir, d'une certaine façon.
Il fallait créer le pouvoir, le prendre et le gérer, mais le gérer avec intelligence, en évitant surtout d'en abuser. Tout abus de pouvoir se retourne contre ceux qui l'utilisent dans de mauvaises conditions.
Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur ce mouvement de la JAC, parce que, donc, breton, on imagine, vous avez grandi dans ce milieu catholique breton, vous avez fait des écoles privées, vous avez naturellement participé à ce mouvement de la JAC, et on peut dire, est-ce qu'on peut dire que, comme ça a pu arriver d'ailleurs dans certains autres mouvements d'action catholique comme la JOC, ça a été progressivement la question de la ruralité qui a pris le pas sur la question de l'action catholique. C'est-à-dire que on a l'impression, quand on lit vos entretiens avec Fanchelle et Goethe, Alexis Gourvenec, que tout compte fait, ce qui a compté dans cette expérience de la JAC, c'est moins l'expérience du catholicisme, l'expérience de l'Église, etc., que l'expérience du travail sur le rural et de sa modernisation. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas du tout. En effet, j'ai été plus passionné personnellement à la JAC par l'aspect, je dirais, de promotion des hommes, de conquête d'un pouvoir économique, pénétration de la société prise dans son ensemble, de méthodes de travail pour apporter des solutions, y compris collectives, à cette société. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, par l'aspect que j'appellerais purement militant catholique. Même si j'étais catholique pratiquant, je trouvais que c'était pratiquement plus important de donner aux paysans et aux paysannes une véritable place dans la société que de faire des discours en permanence sous l'Évangile. Nous avions assez de prêtres à l'époque pour le faire.
Oui, alors néanmoins, on touche à un des points centraux du problème Alexis Gourvennec, à savoir que ce mouvement entamé avant-guerre, développé après la Seconde Guerre mondiale, c'est un mouvement qui est un mouvement de promotion sociale, pourrait-on dire, puisqu'il permet à des jeunes à la fois d'apprendre à parler en public. Il leur permet de prendre des responsabilités, de savoir comment se gèrent des petits groupes de militants, par exemple. Mais c'est un peu comme la même chose avec l'école républicaine ou l'école catholique. Il permet aussi de sortir de son milieu, c'est-à-dire que c'est aussi une possibilité de quitter sa région, de quitter la terre, ce que vous n'avez jamais fait puisque vous avez refusé les responsabilités nationales, en particulier Alexis Gourvennec au sein de l'AJAC.
C'est-à-dire mon choix a été fait en tout état de cause. J'avais déjà assez de cousins qui habitaient la région parisienne, qui revenaient d'ailleurs passer leurs vacances en Bretagne, en culotte courte, peut-être parce que leur moyenne, leurs parents n'avaient pas les moyens de leur payer des culottes longues. C'est une plaisanterie, bien sûr. Mais pour ma part, en tout cas, aller habiter ces clapiers, excusez l'expression, des banlieues de la région parisienne, ces HLM dont on voit régulièrement maintenant à la télé nous montrer leur destruction, 20 ou 30 ans après qu'il n'ait été construit. Mmh. Constater et ne pas pouvoir aujourd'hui lire un journal ou entendre une radio ou une télé sans entendre parler du problème des banlieues et des quantités de problèmes humains que cela pose. Je suis de ceux qui croient qu'en réalité, à force d'avoir fait une concentration urbaine aussi excessive, on a raté un grand coach dans la société.
Ça, c'est un discours qui vous précède d'ailleurs. C'est un discours aussi contre Paris, contre la capitale, contre la centralisation. C'est un discours contre le jacobinisme qui n'est pas si récent que cela dans les régions de l'ouest de la France, sans remonter à la Révolution française. Mais on voit bien dans ce que vous dites, vous parlez de Paris mangeur d'hommes, qui est une vision, je dirais presque du 19e siècle. Ça n'est pas seulement une ville qui mange des hommes, c'est aussi une ville qui les transforme, qui leur permet la promotion, qui leur permet de sortir d'un milieu qui a quelquefois été contraignant, ce que vous n'avez pas voulu vous-même, Alexis Gourvennec. Mais on peut comprendre aussi ceux qui ont voulu quitter ces milieux de paysans.
On peut les comprendre. D'ailleurs, chacun, je le dirais, dans une certaine mesure, est libre de ses choix fondamentaux.
Bien sûr.
Est libre de son destin. Il n'en demeure pas moins vrai que Paris ne mange pas que des hommes. Paris mange de la productivité. Il mange... Regardez la productivité du Parisien moyen.
Ah, ça, je la connais pas.
Vous n'avez qu'à aller voir, alors, disons, sur tous les périphériques de la région parisienne, tous les matins et tous les soirs, sur les trains de banlieue. Vous n'avez qu'à aller voir le nombre de voitures qui ne roulent pas dans Paris. Je dis, les voitures ne roulent pas dans Paris. À mi-temps, elles sont arrêtées devant les feux rouges ou dans les embouteillages. C'est quand même pas ça, une productivité fantastique. Oui. On aurait eu une autre politique d'aménagement du territoire, telle que celle qu'Olivier Guichard avait rêvé à une certaine époque.
Donc et Olivier Guichard, qui était ministre de l'aménagement du territoire, en particulier
du territoire, et même Pompidou,
de la fin des années 60.
Et même Pompidou, qui à un moment donné s'était trompé. Effectivement, lorsque Paul Delouvrier avait fait le livre blanc de la région parisienne,
Avec pôles d'équilibre.
Avec ses 12 millions d'habitants. Mmh. Et aujourd'hui, on est en train de dynamiter tout ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, sinon on va entretenir, je dirais, des catégories de jeunes qui n'auront pas de chance d'épanouissement dans ces banlieues absolument surchargées.
Mais alors, Alexis Gourvennec, je reviens sur ce discours donc anti-parisien, anti-centralisateur, anti-fonctionnaire aussi, parce que vous êtes un libéral et vous dites que l'administration, quelquefois, fait très bien son travail lorsque les données sont précises et qu'elle a un ordre du pouvoir politique très précis, une sorte de carnet de route bien fait, mais vous dites du mal, par ailleurs, d'ailleurs des fonctionnaires dans certaines de vos réflexions, Alexis Gourvennec. Donc c'est un discours ancien chez les paysans de l'Ouest que de considérer que c'est à l'extérieur, à Paris, dans la centralité, que tout se passe mal d'une certaine façon, non ?
Oui, c'est peut-être devenu même une habitude, une seconde habitude. Mais nous avons malheureusement nos justificatifs et nos raisons. Lorsqu'un ministre pour une entreprise que je préside, qui s'appelle Brittany Ferry, m'écrit pour me demander quels sont vos projets d'investissement pour les 5 ans qui viennent, je lui pose la question de savoir, monsieur le ministre, quelle va être votre politique dans 3 mois. Il me dit, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Comment voulez-vous ? Et c'était pas à n'importe quel ministre que j'ai répondu ça. Car il s'agissait de Francis Maire, le ministre des Finances, il n'y a pas encore si longtemps. Puisque vous n'êtes pas capable de me dire quelle va être votre politique dans 3 mois, est-ce qu'il est raisonnable de me demander quel va être notre projet, quels sont nos projets d'investissement dans 5 ans? Nos projets d'investissement vont être fatalement fonction de la politique que vous allez construire sur le plan économique.
Alors, venons justement à ce maillon manquant, ce chaînon manquant entre aujourd'hui et puis cette période de votre formation. C'est donc, Alexis Gourvennec, cette période de la fin des années 50, début des années 60, où vous êtes à la fois leader du syndicalisme pour le Nord Finistère, ça c'est en 58, vous devenez président du comité de l'Artichaut, vous entrez au conseil d'administration de la FDSEA, du Finistère en 59, vous allez ensuite fonder avec d'autres la SICA de Saint-Paul-de-Léon qui regroupe donc 3300 producteurs légumiers pour toute cette région autour de Saint-Paul-de-Léon. Et puis petit à petit vous allez construire donc une épopée collective qui va conduire ces agriculteurs au début des années 70 à créer une ligne de ferry avec l'Angleterre et l'Irlande qui va devenir Brittany Ferries. Mais si on revient à cette archive qu'on a écoutée au tout début de notre intervention, à la fois l'attaque de la sous-préfecture de Morlaix, votre incarcération en tant que leader paysan, puis ensuite votre libération sans frais, vos discussions avec les différents gouvernements, les différents ministres de l'agriculture, qu'est-ce qui se joue dans ce qui tourne autour de cette attaque de la sous-préfecture de Morlaix et de la réaction du pouvoir central, le pouvoir de Charles de Gaulle? C'est le lien justement entre les régions et la nation, c'est le lien entre la paysannerie et la centralité parisienne, c'est le lien entre la violence aussi et le désir d'ordre du centre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que cette épopée qui a été suivie par beaucoup de Français à l'époque, au tout début des années 60, c'était en 1961, qu'est-ce qui fait que cette épopée, cette bagarre est devenue symbolique pour le milieu paysan et pas seulement breton?
D'abord, elle est devenue symbolique parce qu'elle a été beaucoup moins violente que certains en ont voulu le dire. Concrètement, les choses se sont passées de la façon suivante. J'ai tout à l'heure parlé de la création d'un pouvoir économique pour les paysans, c'est-à-dire leur capacité qu'ils puissent se doter d'instruments pour gérer les marchés agricoles. Pour y parvenir, il fallait convaincre le maximum d'agriculteurs. C'est ce que nous avions fait. Nous savions aussi que pour atteindre notre optimum d'efficacité, ce n'était pas une grande majorité qu'il fallait convaincre, mais la totalité. Or, l'unanimité est un phénomène qui n'existe pas. Donc à partir du moment où il y a une minorité récalcitrante, il n'est pas choquant de se tourner vers l'État pour que l'État contraigne cette minorité récalcitrante à rejoindre les rangs de la majorité.
Alors éclaircissez un peu nos auditeurs, cette minorité récalcitrante, c'était des gens qui, comme vous, étaient légumiers et qui ne voulaient pas de ce nouveau système que vous vouliez imposer, donc que la majorité voulait imposer donc à toute la région du Nord Finistère, à savoir un marché au cadran qui permettrait une sorte de transparence des prix, mais aussi d'avoir des prix minimums qui évitaient justement ces fameuses ruptures ou ces marchés qui se terminaient, dites-vous, à 6 heures du soir après avoir commencé à 10 heures le matin et où vous étiez plumé par les négociants qui ramassaient la marchandise pour quasiment rien. C'est cela ?
C'est vrai que l'unanimité, tout le monde n'était pas d'accord avec notre projet. Mais vous mettriez 5 profs de maths dans une salle et que vous leur diriez 2 et 2 font 4, je ne suis pas sûr qu'ils seraient d'accord tous les 5. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ceux qui veulent pas comprendre. Il y a ceux qui ne peuvent pas comprendre. il y a ceux qui sont systématiquement contre ce pourquoi une majorité est. C'est ce qui m'avait donc amené à proposer à Rochereau cette
fameuse loi. Qui était ministre de l'Agriculture.
Rochereau m'avait éconduit. Peut-être qu'il n'était pas capable de comprendre, d'ailleurs, j'ai toujours pensé ça. J'ai eu à l'époque un accrochage très difficile et très dur avec Michel Debré.
Premier ministre.
Et il m'a dit, mais puisque vous voulez imposer votre point de vue à ceux qui ne pensent pas comme vous, vous êtes un véritable dictateur. J'avais 25 ans à l'époque. Il m'a dit, monsieur le Premier ministre, répétez, il me dit, vous êtes un dictateur. Je lui ai dit tout simplement, vous êtes vraiment gonflé. Vous qui, avec 50,01% des voix des Français, sans scrupule, vous imposez votre point de vue aux 49,99% d'autres. S'il y a un dictateur dans cette salle, monsieur le Premier ministre, vous le verrez ce soir quand vous rentrerez à la maison et que vous allez regarder dans le miroir. Il me dit, vous êtes un insolent, ça me convient beaucoup mieux. Car notre proposition de loi, c'était que l'État intervienne pour contraindre une minorité de récalcitrants, mais une minorité dont on avait fixé le seuil à 34%, pour répondre par conséquent aux souhaits de 66%. Le général de Gaulle a très vite compris à notre sortie de prison. Il a remercié Rochereau. Il a mis Pisani.
Alors là, Pisani, c'est une sorte de grande histoire d'amitié, de respect surtout entre vous, jeune leader paysan, et Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture d'une génération un peu plus âgée que vous, pas beaucoup, mais un peu plus néanmoins. Là, on sent que vous avez trouvé la personne adéquate, puisque vous révélez dans votre livre avec Fanché les Gouettes que quelquefois même Edgar Pisani vous demandait de faire quelques actions un peu fortes pour pouvoir imposer lui des réformes à l'Assemblée qui n'était peut-être pas toujours d'accord. Donc il y a une sorte de partenariat qui s'établit entre le ministre et le syndicaliste, c'est ça?
C'est vrai qu'on se complétait bien et j'avais toujours un malin plaisir à monter des manifs sur commande en provenance du ministère de l'Agriculture.
Ça, c'est assez original. C'est comme si des ouvriers disaient qu'ils se mettaient à monter des manifestations à la demande du ministère de l'économie. C'est assez particulier, ce rapport que vous établissez. D'ailleurs, c'est un rapport qui a été critiqué par des générations postérieures de militants paysans. Ce rapport très proche, presque de co-gestion du ministère de l'Agriculture entre les militants syndicalistes agricoles et le ministre lui-même.
Ça a été critiqué, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins vrai que ça a aussi porté ses fruits. Puisque après cette construction de la CICAD Saint-Paul, après le vote sur la loi sur les groupements de producteurs d'août 62.
Donc le début de cette régulation du marché des légumes.
Cette régulation du marché, on a eu effectivement une organisation économique très forte et qui a été tellement forte qu'elle a pu poser le problème de l'avenir de notre région en d'autres termes. Je vous aime l'expliquer rapidement.
On va y venir tout de suite, mais il y a tout de même, là, je voudrais insister avec vous là-dessus, il y a tout de même une sorte de paradoxe, Alexis Gouvernec, à la fois à être anti-étatiste, anti-centralisateur, et que d'avoir besoin, à un moment, de recourir à ce centre, au plus haut niveau de ce centre, au ministère en l'occurrence, pouvoir aider votre volonté. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce jeu un peu à double jeu qui n'est pas qui est du moins efficace, c'est ce que vous expliquez et on le voit, qui est à la fois de critiquer le centre et en même temps de recourir à lui.
C'est possible. Ce que l'on peut toutefois affirmer et rappeler, c'est que le libéralisme intégral porte en lui les germes de sa disparition.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes libéral, mais vous n'êtes pas libéral.
Si on ne sait pas établir des garde-fous. Imaginez qu'au nom du libéralisme, chacun puisse indépendamment dire « moi je circule à gauche plutôt qu'à droite ». Au nom du libéralisme, chacun dise « au total, c'est au feu rouge que je démarre et non pas au feu vert ». Donc, une société ne peut fonctionner correctement que s'il y a des règles de fonctionnement. Et là, il n'y a que l'État qui a l'autorité pour le faire. Et comme il n'y a que l'État également qui a autorité et qui a les moyens de doter dans certains cas certaines régions des infrastructures de base dont elles ont besoin pour leur développement. Puisque à partir du moment où nous avions bâti ce pouvoir économique à travers la CICAD Saint-Paul et le Comité économique fruits et légumes de Bretagne, pour la gestion du marché des légumes. On s'est attaqué à un autre problème, qui était ce que nous appelions nous autres la diminution fatale du nombre d'agriculteurs. La diminution fatale du nombre d'agriculteurs et que nous voulions qu'elle se passe dans des conditions sociales et humaines acceptables.
Pour qu'elle n'aille pas, comme vous le disiez tout à l'heure, dans des clapiers.
Pour qu'elle n'aille pas dans ces clapiers de la région
parisienne. Pour qu'ils deviennent ouvriers spécialisés dans les usines, c'est ça ?
Dont on avait une sainte horreur.
Oui, alors on voit bien la cohérence en tous les cas de ce propos. Ça voulait dire maintenir des emplois sur place, en développer, alors peut-être pas des emplois industriels. En tout cas, ça n'a pas beaucoup fonctionné en Bretagne, parce que lorsque l'État a bien voulu user de son influence pour pouvoir créer de nouvelles usines, elles ont été aux portes de la Bretagne. C'est la capitale, certes, du côté de Rennes, mais elles sont rarement allées beaucoup plus loin. Donc, mais néanmoins, c'est le développement de l'agroalimentaire, c'est le développement et la volonté de désenclavement de la Bretagne. Racontez-nous brièvement cette rencontre avec puisque vous avez fait beaucoup de voyages dans ces années-là avec des agriculteurs américains à qui vous expliquez que c'est très difficile pour vous parce que vous êtes à 600 km de Paris que de pouvoir transporter vos fruits et légumes dans de bonnes conditions et ils vous rient au nez parce que ils sont à 6000 km de New York et tout marche bien, c'est ça ?
Exactement. En fait, lorsqu'on a analysé ce que devait devenir la Bretagne, elle devait être progressivement moins agricole par un développement extra-agricole. Le développement extra-agricole ne pouvait pas se faire si nous restions dans cette situation de région totalement enclavée. Et là, j'ai à nouveau retrouvé Pisani, qui était boulevard Saint-Germain à l'époque.
Et les ministères.
Et les ministères, au ministre de l'équipement, Olivier Guichard, etc., Jérôme Monod. Et au total, nous avions bâti un schéma de structure du Nord Finistère à l'horizon 85. Ça, c'était en 65. On essayait de projeter le Nord Finistère pour dans 20 ans. J'étais affolé par l'immensité, je dirais, du parcours à faire. On avait fait appel à des géographes, à des économistes, à des urbanistes, etc. Nous avions un document haut de 10 cm, long de 60 cm, et haut, pardon, de 60 cm, et épais de 10 cm. 200 propositions. J'étais amené à dire à mes amis, si nous allons négocier ça à Paris, une fois de plus, on va se faire avoir. Une fois de plus, on va se faire avoir, car Paris est passé maître depuis très longtemps dans l'art de vous donner satisfaction sur des bagatelles quand vous commettez l'erreur stratégique de leur demander à la fois des grandes solutions pour des grands problèmes et des petites solutions pour des petits problèmes. On vous donne satisfaction sur les bagatelles, ce qui permet aux Parisiens de se dérober à l'essentiel. Ça nous avait amené à ramener les 200 propositions du projet à 6 propositions.
Qui, elles, pouvaient être admises par le pouvoir central, c'est cela ?
C'est-à-dire, ça a été à prendre ou à laisser. Et à l'époque, c'est Georges Pompidou qui était Premier ministre. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises et je lui ai demandé, nous voulons pour les paysans, des routes, du téléphone aujourd'hui, c'est une banalité, des téléphones à l'automatisme intégral, création d'université à Brest, la création d'une plateforme industrielle à Brest et la création d'un port en profondeur en Roscoff.
Le port à grande profondeur, c'était le début de ce qui allait devenir de Brittany Ferries ensuite, évidemment.
Exactement. Et le Premier ministre me dit, mais qu'est-ce que vous demandez pour les paysans ? Elle dit, je vous demande ça, monsieur le Premier ministre. Et en contrepartie, je vous garantis la paix sociale. Mais comment vous allez faire ? Ben, je dis, il appartient à l'État de sauter ce que j'appelle les obstacles au développement. Mais l'État ne sait pas développer une région. Vous nous sautez les obstacles au développement, qu'est en fait que ce sont nos contraintes d'enclavement, et après la Bretagne, nous la développerons nous-mêmes. Et c'est au total, malgré tout, ce qui s'est passé.
Et vous avez obtenu cela, évidemment, avec l'aide d'un ministre breton à l'époque, Raymond Marcellin, c'était en 1968.
C'était Raymond Marcellin. On a eu beaucoup de complicité.
Et oui, c'est ça, c'est toujours ça qui compte aussi, c'est d'avoir des relais dans les gouvernements, d'anciens directeurs de cabinet, de ministères qui vous servent plus ou moins de mentors dans cette espèce de jungle aussi des administrations parisiennes pour savoir à quelle porte frapper pour que ça ait le plus d'impact. C'est aussi cela, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement, il y a aussi ces petits réseaux qui se créent entre Bretons ou entre gens qui connaissent la Bretagne. Je me trompe, Alexis Gourvenec ?
Non, vous ne vous trompez pas du tout. Hein. Je pourrais citer pratiquement tous les membres du cabinet de Georges Pompidou en 1968. Georges Pompidou savait incontestablement s'entourer. On y trouvait Friedman, on y trouvait Séguin, on y trouvait Lelon, on y trouvait un certain Jacques Chirac. Et j'ai toute la liste en tête. Et effectivement, si nous n'avions pas ces relais autour même, je dirais, des vrais décideurs, je ne crois pas que l'on aurait fait en Bretagne le parcours que nous avons fait, mais qui n'a pas été le parcours d'un homme, qui a été le parcours d'une équipe satanément soudée.
Alors, il y a aussi l'arrivée dans le jeu du marché commun de Bruxelles. Vous créez, avec l'aide d'autres, une sorte de représentation bretonne dans cette région, dans la capitale européenne, qui s'appelle Bryce Europe, qui va servir de lobbying pour votre région. Alors, on voit bien qu'à chaque fois, à chaque étape, il y a la nécessité d'aller plus loin pour rester sur place. C'est ça aussi le paradoxe, Alexis Gourvenec. Il faut taper très loin, Paris, quelquefois, mais plus loin encore, pour rester sur place.
En tout état de cause, les méthodes, je crois, et les démarches doivent n'ont pas évolué depuis 40 ans, 50 ans. Tout d'abord, il faut avoir de bons dossiers, avec un nombre d'idées limitées. Après, il faut essayer de convaincre. Si ça ne passe pas, essayez de séduire. Et au dernier carat, on l'a prouvé dans le passé, au dernier carat s'il le faut, essayez de contraindre.
Ah oui, alors, juste un petit mot sur cette question de la violence paysanne. À la fois, vous la défendez comme étant l'ultime limite au-delà de laquelle il faut aller pour pouvoir justement imposer ses vues, et vous la critiquez lorsqu'elle n'a pas de but, dites-vous, lorsqu'il n'y a pas de projet derrière. C'est-à-dire que effectivement, vu de la part des milieux citadins, cette violence, quelquefois, est sans objet. Elle devient une sorte de violence rituelle où on va arracher les grilles des préfectures, comme on dit. Vous dites que ça n'est pas simplement cela. C'est un moyen d'action, c'est un moyen d'aller plus loin, mais il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. Je me trompe ?
Non, c'est une évidence folle. Mais il est évident aussi qu'il faut relativiser la violence. Pour ma part, j'ai sûrement, avec des amis, mis sur, pendant une cinquantaine d'années, des centaines de milliers de paysans sur les routes. Nous n'avons pas eu une goutte de sang. Ce qui prouve quand même que ce que l'on présente des fois comme étant de la violence...
Mais il n'y a pas simplement la violence physique, il y a aussi la violence symbolique. Quand on s'attaque à l'État, quand on s'attaque... On se dit, mais pourquoi les paysans ont-ils le droit de le faire alors que d'autres catégories professionnelles ne le font pas, par exemple?
Pourquoi les paysans ont le droit de le faire? Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Quelle différence? Le paysan, il ne peut pas décider de ne pas traire ses vaches pour contraindre le gouvernement. Ceux qui travaillent à la SNCF ont la possibilité de faire grève pour contraindre le gouvernement. Ceux qui travaillent dans l'éducation nationale ont cette possibilité. Le paysan n'a pas ce droit de grève. Il l'a théoriquement, mais il ne sanctionne personne d'autre que lui-même.
Que lui-même.
Alors, quant à la violence, moi j'en ai effectivement mené quelques-unes. L'occupation de la sous-préfecture de Morlaix, à l'époque, nos jeunes, ils savaient se battre, ils rentraient d'Afrique du Nord. C'est un bon copain ancien Paranmassu qui, au troisième coup d'épaule, a emporté la porte de la sous-préfecture de Morlaix. Et depuis, tous les sous-préfets de Morlaix qui se succèdent, et il y en a eu de beaucoup, à chaque fois qu'ils viennent, ils demandent à me voir pour me remercier. Cette porte était vermoulue, elle était pourrie. La sous-préfecture était dans un état de délabrement absolument inimaginable. Ça a valu aux différents sous-préfets de Morlaix qui se sont succédés depuis de bénéficier d'un véritable château qui leur a été construit par la République française.
Alors, nous allons arriver au terme de notre entretien, Alexis Gourvenec. Hier, il y a eu des manifestations du côté de la Creuse pour protester contre l'attitude de l'État qui se désengage des services publics, en particulier en milieu rural. Moi, je voulais venir sur ce petit constat, c'est trop court en 2 minutes ou 3 minutes d'y répondre, mais ce combat que vous avez entamé dans les années 50, continué de façon acharnée jusqu'à donc devenir le président de Brittany Ferries, obtenir le désenclavement de la région, ce combat n'a pas empêché l'exode rural que vous craigniez, n'a pas empêché que certaines régions, petit à petit, se désertifient. C'est-à-dire que vous avez essayer d'aller contre une sorte de destin du milieu rural et vous n'êtes pas parvenu à contraindre, à empêcher cette désertification.
à l'empêcher complètement, c'est exact.
À la freiner, en tous les cas, vous avez réussi à la freiner.
À la freiner, nous l'avons quand même réussi. Nous ne sommes pas dans le Massif central en Bretagne. Et si peut-être certains responsables du Massif central avaient pris le problème du Massif central comme les Bretons l'ont pris, il y a une cinquantaine d'années, leur situation aujourd'hui eût été meilleure. Ça ne m'amène pas, pour autant, à leur jeter la pierre. La Bretagne a fait son développement. Son développement par une intensification, c'est vrai, de l'agriculture. Par un développement fantastique de l'agroalimentaire. Elle a fait son développement aussi par le développement du tourisme. Brittany Ferry est aujourd'hui le premier armement français en matière de nombre de marins français. Nous seuls, nous représentons le quart des marins de la marine marchande française. Sa seule société de ferry au monde, je dis au monde, dont le capital soit détenu par les paysans. Autrement dit, après avoir réclamé notre place dans la société comme je le faisais au début de mon intervention. Nous sommes partis jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas de solution uniquement au problème, qu'il n'y a pas de solution uniquement paysanne au problème paysan. Que la solution du problème paysan passait par un développement non agricole. Et quand dans ce développement non agricole, nous acceptions d'emblée de prendre nos responsabilités et d'en constituer un des moteurs principaux. Nous avons là retrouvé, je dirais, un lieu de fraternité, de confiance et d'action collective avec nos anciens partenaires non agricoles qui nous regardaient de haut il y a 50 ans. Aujourd'hui, on travaille main dans la main.
Pour terminer, nous allons écouter une chanson qui va peut-être vous rappeler encore quelque chose.
Nous déchetons moyens de vivre à l'armiseur. Nous déchetons moyens de vivre à l'armiseur. Nous déchetons moyens de vivre à l'armiseur. Peine bronze de la gagne tout fallait zéneu. Mes herbes mille novembre, tu non attribues gêne. Mes herbes mille novembre, tu non attribues gêne. Mes herbes mille novembre, tu non attribues gêne. C'est des choses de mi, d'un gomme nu divin. À doire finistère, à zen, oui, commence, à doire finistère, à zen, oui, commence, à doire finistère, à zen, oui, commence, gourvene caléon, ou de oui, becheren.
On peut ne pas parler le breton, ne pas le comprendre, mais juste avoir entendu ces deux noms, Gourvenec et Léon. C'est une guerre, c'est une chanson qui a été composée justement lors de votre arrestation. Vous vous en souvenez? C'est une chanson de Jean Goudivez, c'est ça?
Oui, absolument. Oui.
Et alors?
Elle nous rappelle évidemment un peu d'émotion.
Et vous comprenez ce breton ou vous avez des difficultés?
J'ai quelques difficultés à le comprendre, mais enfin, j'en comprends l'essentiel.
Et oui, parce que, en fait, vous faites partie de ces générations qui n'ont pas eu la possibilité d'apprendre le breton, contrairement aux plus jeunes générations aujourd'hui, c'est cela?
Il y avait même chez moi, sur le plan familial, pratiquement l'interdiction de parler le breton, parce que mes parents parlaient le breton entre eux, avec les grands-parents aussi. Mais mes parents avaient subi tellement de pression à l'école primaire quand ils parlaient breton dans la cour qu'ils ont considéré que de toute façon il fallait surtout que l'on ait une langue forte qui était la langue nationale à laquelle nous appartenions.
Et avec laquelle justement vous avez pu, grâce à vos talents oratoires, donc défendre cette entreprise collective qui est le thème du livre que vous avez écrit, co-écrit avec Fanch et les Goètes, donc aux éditions Apogée. Merci encore Alexis Gourvenec d'avoir été avec nous.
Merci.
Ce numéro avait été préparé par Marie-Vona Bolivier et Blaise Thierry. Les Archivina ont été choisis par Jeannette Passierkowski et Philippe Chalinier. À la technique à Quimper, Frédéric Baquet. À Paris, Aurélie Fortin. Et à la réalisation, Véronique Lamandour.